VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous, avec vous ce matin, Bagassi Koura et Anne Alberson. Bienvenue à cette édition, cette dernière édition de la semaine. Nous sommes le vendredi 27 mars 2015 et au sommaire...
Deux vaccins expérimentaux contre le virus Ebola, objet d'un essai clinique de phase 2 au Liberia, paraissent être sans risque.
Le président kényan a présenté ses excuses à ses compatriotes pour les exactions commises par son gouvernement et ceux l'ayant précédé.
Le Mali a célébré hier les 24 ans de sa révolution qui a consacré l'ouverture démocratique.
Nous devons continuer à nous souvenir, continuer à nous rappeler la mémoire de ces martyrs. Ce qui est important, je crois que nous ne devons pas oublier les idéaux du 26 mars.
Voilà, à Diffa, dans le sud-est du Niger, la guerre contre Boko Haram se ressent aussi dans les assiettes.
Nous avons interdit formellement le mouvement du poisson et du poivron juste parce que ça ne profite qu'aux gens de Boko Haram.
Voilà, c'est le gouverneur de Diffa, Yakubu Soumana Gao.
Le président syrien Bachar al-Assad déclare qu'il est ouvert à un dialogue avec les États-Unis.
À suivre dans quelques instants, la Minute Éco suivie des sports. Mais d'abord, le journal.
Lutte contre Boko Haram, les armées du Tchad et du Niger poursuivent leur offensive contre le groupe islamiste dans le nord-est du Nigeria, fief des insurgés islamistes. Selon l'AFP, citant le ministre de la Défense nigérien, ces armées ont repris la ville de Gachagar à la frontière avec le Niger. Le Tchad et le Niger mènent depuis le 8 mars une offensive terrestre et aérienne contre Boko Haram dans le nord-est du Nigeria à partir du sud-est du Niger voisin. Ils ont notamment repris Damasak, localité située à une trentaine de kilomètres de la ville nigérienne de Diffa.
La secrétaire d'État adjointe américaine chargée des affaires africaines est attendue aujourd'hui au Nigeria, à la veille de l'élection présidentielle couplée aux législatives. Les détails avec Eddie Isango.
Linda Thomas-Greenfield conduira la mission diplomatique officielle d'observation des élections générales nigérianes du 28 mars. Pour les départements d'État, ces déplacements de Madame Thomas-Greenfield révèlent l'importance que Washington attache à ces élections nigérianes. Les autorités américaines disent suivre de très près la crise dans ces géants de l'Afrique de l'Ouest. Washington voudrait, par cette visite, donner un exemple de l'appui qu'il apporte au processus électoral au Nigeria en vue d'un scrutin crédible et pacifique. Sur place, la secrétaire d'État adjointe chargée des affaires africaines aura des entretiens bilatéraux avec les 14 candidats qui briguent les postes du président de la République au Nigeria. La situation sécuritaire préoccupante causée par la présence du groupe islamique Boko Haram sera aussi au centre de ces entretiens. Déjà, le président Barack Obama a appelé lundi les Nigérians à voter samedi dans les calmes et à ne pas suivre ce qui appelle à la violence. À la veille de l'élection, les forces de sécurité nigérianes ont renforcé la surveillance. La campagne électorale s'est officiellement clôturée hier, alors que les deux principaux candidats, les présidents sortants Goodluck Jonathan et les candidats de l'opposition, Muhammadu Buhari, ont renouvelé leur engagement pour des élections pacifiques, libres, justes et crédibles.
Au Mali, des partisans de l'ex-président Amadou Toumani Touré, exilé au Sénégal depuis 2012, réclament son retour malgré la menace de poursuites judiciaires qui pèsent contre lui. Les partisans d'ATT, comme on l'appelle, ont organisé des rassemblements jeudi à Bamako et en province pour son retour. Selon l'AFP, le rassemblement à Bamako a réuni dans une salle d'un centre de conférence plus d'un millier de personnes, pour la plupart en t-shirt à l'effigie d'ATT. Général à la retraite élu du président du Mali en 2002, réélu en 2007, ATT avait été renversé le 22 mars 2012 par des militaires qui l'accusaient d'incurie dans la lutte contre les groupes armés alors actifs dans le nord du pays.
L'ONU a décidé d'augmenter le nombre de casques bleus opérant en République centrafricaine. Dans une résolution, le Conseil de sécurité autorise le déploiement de 750 soldats et 280 policiers supplémentaires dans le cadre de la MINUSCA, mesure notamment prise en prévision des prochaines élections.
Et pour ce qui est de la République démocratique du Congo, les Nations unies ont décidé de réduire les effectifs militaires de 10%, soit 2000 hommes sur près de 20 000 soldats autorisés. Le mandat de la mission onusienne est toutefois renouvelé pour un an. Selon des diplomates du Conseil, Kinshasa réclamait le retrait immédiat de 6 000 casques bleus.
Le président kényan a présenté ses excuses à ses compatriotes pour les exactions commises par son gouvernement et ceux l'ayant précédé. Le moment est venu de refermer la page d'un passé douloureux, a déclaré Uhuru Kenyatta hier dans un discours au Parlement sur l'état de la nation. Les précisions de Timothée Dongmaï.
Parmi les actes de violence ayant émaillé l'histoire du Kenya, le président Kenyatta a cité les affrontements post-électoraux de 2007-2008, le massacre en 1984 de Kenyans d'ethnie somali, des meurtres non élucidés et diverses injustices. Selon l'agence Associated Press, il a informé les législateurs avoir instruit le ministre des Finances de créer un fonds de 110 millions de dollars qui sera utilisé dans des initiatives de justice restauratrice sur les trois prochaines années. En remettant son rapport au président Uhuru Kenyatta en mai 2013, la commission Vérité et Réconciliation du pays lui avait accordé 6 mois pour présenter ses excuses aux Kenyans. Ce document avait épinglé, entre autres, le chef de l'État kényan lui-même et son vice-président pour les violences post-électorales de 2007-2008. Le document n'a pas épargné d'anciens dirigeants kényans, citant Jomo Kenyatta, père du président actuel, Daniel Arap Moi et Mwai Kibaki, pour diverses violations des droits humains.
Deux vaccins expérimentaux contre le virus Ebola, objet d'un essai clinique de phase 2 au Libéria, avec plusieurs centaines de personnes, paraissent être sans risque. C'est ce qu'a indiqué jeudi l'Institut américain des allergies et des maladies infectieuses. Ces résultats confirment 2 essais cliniques avec 20 personnes chacun, menés précédemment aux États-Unis. L'essai se poursuit en augmentant le nombre des participants, qui devrait atteindre environ 1500, et avec une plus grande proportion de femmes, d'environ 16%, précise un communiqué. Cette phase vise à déterminer l'efficacité des vaccins.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président syrien Bachar al-Assad a déclaré qu'il était ouvert à un dialogue avec les États-Unis. Selon l'AFP, il a fait cette annonce dans une interview accordée à la chaîne de télévision américaine CBS et dont les extraits ont été diffusés jeudi. Assad a ajouté qu'un tel dialogue devrait être fondé sur le respect mutuel selon ces extraits de l'interview accordée au journaliste Charlie Rose et dont l'intégralité doit être diffusée dimanche dans l'émission 60 Minutes de CBS. Le 15 mars dernier, dans une interview à CBS, le secrétaire d'État John Kerry a paru dire que Washington devrait en fin de compte parler avec le président Assad si l'on voulait mettre fin au conflit en Syrie.
Les forces irakiennes sont en pleine offensive pour reprendre la ville de Tikrit. Auparavant, les avions de guerre de la coalition sous commandement américain ont lancé des frappes aériennes sur des objectifs du groupe État islamique dans la ville. Jean-Roger Bion.
Les militaires irakiens annoncent que les combats se sont intensifiés et que les troupes irakiennes et les forces spéciales ont fait mouvement vers le centre de Tikrit, la ville natale de Saddam Hussein. Les avions de guerre irakiens ont également lancé des frappes aériennes sur les positions des militants de l'État islamique dans Tikrit. Les troupes irakiennes et les milices chiites qui luttent contre les militants avaient hésité à demander un appui aérien extérieur, mais après quelques prises rapides en dehors de Tikrit, les efforts pour reprendre la ville s'étaient enlisés. Les frappes aériennes ont commencé après que le premier ministre irakien Adel Al-Abadi eut demandé il y a un mois un soutien pour reprendre cette ville stratégique. Le commandant de la coalition, le général américain James Terry, a déclaré que les frappes aériennes vont permettre aux forces irakiennes de bouter dehors les djihadistes. Ces frappes visent à cibler les forteresses des îles avec précision et ainsi sauver des vies d'Irakiens innocents, tout en minimisant les dommages collatéraux aux infrastructures, a-t-il notamment ajouté. Tikrit est la capitale de la province de Salahuddin, une zone située entre la capitale irakienne, Bagdad et la deuxième ville d'Irak, Mossoul, qui est sous contrôle des combattants de l'État islamique depuis le mois de juin.
Voilà, le président iranien Hassan Rouhani a lancé une offensive diplomatique exceptionnelle en appelant et en envoyant des lettres aux dirigeants de grandes puissances, dont le président Barack Obama, pour pousser à un accord sur le nucléaire. C'est là alors même que des discussions âpres ont repris à Lausanne en Suisse en vue d'arracher un compromis avant la fin du mois. Des détails avec Jacques Aristide.
Des coups de fil personnels à nombre de leaders mondiaux, le chef de l'État iranien a appelé un par un les présidents russes Vladimir Poutine, chinois Xi Jinping, français François Hollande et le premier ministre britannique David Cameron. Objectif, mettre tout son poids dans la balance à J-4 de la date butoir du 31 mars, fixée par les négociateurs pour aboutir au minimum à un accord cadre sur le nucléaire iranien. D'après l'AFP, Hassan Rouhani a également envoyé des lettres aux dirigeants de tous les pays du groupe P5+1, États-Unis, Russie, Chine, France, Royaume-Uni et Allemagne. La Maison-Blanche a confirmé qu'une lettre avait été remise à la délégation américaine à Lausanne. Messieurs Rouhani et Barack Obama se sont parlé au téléphone une seule fois fin 2013, en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies, alors que les deux pays n'ont toujours pas rétabli leurs relations diplomatiques, rompues depuis 35 ans. Téhéran cherche l'annulation totale des sanctions internationales qui asphyxient l'économie iranienne.
Des avions de la coalition menée par l'Arabie saoudite ont lancé de nouvelles frappes hier soir au Yémen contre les rebelles chiites soutenus par l'Iran. L'information a été rapportée par l'AFP qui a évoqué de fortes explosions ayant secoué la capitale Sanaa.
Un soldat de la garde nationale de l'armée américaine et son cousin ont été inculpés pour avoir planifié un plan de combat pour le groupe État islamique et de vouloir tuer des dizaines de personnes dans un camp militaire américain. Le soldat Hassan Edmonds, âgé de 22 ans, a été placé en détention à l'aéroport Midway de Chicago mercredi soir. Quant à Jonas Edmonds, âgé de 29 ans, il a été arrêté à son domicile. Les deux hommes sont des citoyens américains.
Savoir sur l'économie en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco et ce matin, c'est avec Eddy Issango.
Pour la deuxième fois en quatre mois, la Banque nationale du Canada effectue un investissement de plusieurs millions de dollars pour une prise de participation au capital d'un groupe financier africain. Cette fois, il s'agit de la société NCA, un groupe de services financiers et d'assurance établi en Abidjan, en Côte d'Ivoire. Les activités de la NCA s'étendent dans 12 pays d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale. En RDC, l'exposition de produits Made in Congo a refermé ses portes hier jeudi à Lubumbashi. Une résolution a été prise de renforcer les femmes entrepreneurs locales. Les présidents des petites et moyennes entreprises du Katanga définissent les défis à relever par les femmes. François Moutuilé.
Les femmes ont beaucoup de défis à relever afin que l'intégration régionale leur soit favorable. L'accès au marché intérieur, la sous-traitance, l'accès au crédit, la formation des entrepreneurs afin que leur niveau managérial soit élevé aux standards requis.
François Moutuilé au micro de nos confrères des Radio Capi. L'insécurité due à Boko Haram et à la crise centrafricaine, combinée à la chute des cours des matières premières, plombe les économies de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC. Les dernières prévisions de croissance de 2015, établies mercredi entre 4,2 et 4,3%, confirment une tendance à la baisse persistante observée depuis fin 2014. Les projections initiales de la CEMAC tablaient sur une accélération époustouflante de cette croissance de 5,3% à 6,7% au cours du premier semestre.
Vous écoutez VOA Afrique, c'est l'heure de sport. Bonjour Arif Francisca.
Bonjour Bagassi.
En football, au suite des matchs amicaux hier soir.
La Côte d'Ivoire a battu l'Angola 2-0 en match amical jeudi à Abidjan. But, Côte d'Ivoire, Ousmane Vieira, 24e minute, Salomon Kalou, 90e minute. Ensuite, le match Qatar-Algérie, 1-0 en faveur des Qataris. La sélection africaine numéro 1 devra se réveiller lundi face à Oman pour éviter que cette tournée printanière dans le golfe Persique ne se transforme en fiasco. Et puis, l'Égypte a battu la Guinée équatoriale 2-0 lors d'un match amical jeudi au Caire. But de Bassem Morsi à la 85e minute et Mahmoud Hassan à la 90e.
Le match de la soirée hier en Europe, c'était France-Brésil.
La rencontre s'est soldée par cette humiliation des Bleus à domicile, 3-1.
Et autre résultat, Henri?
La Colombie a écrasé Bahreïn 6-0 à Rifa, grâce à notamment un doublé de Radamel Falcao. L'Iran s'est imposé face au Chili 2-0. Et samedi, Togo, Île Maurice. Convoqué pour ce match amical, Emmanuel Adebayor, Kossi Agassa et Flood Haïté n'ont pas rejoint la sélection togolaise, qui devrait être coachée pour l'occasion par le Belge Tom Saint-Fier.
Et pour terminer, la NBA, le championnat de basketball nord-américain.
Oui, il n'y avait qu'un match à l'affiche hier soir, celui opposant les Pacers d'Indiana aux Bucks de Milwaukee. Ces derniers l'ont emporté par 111-107, grâce notamment aux 37 points du Turc Ersan Ilyasova. Enfin, ajoutant que c'est la deuxième victoire d'affilée des Pacers après 6 défaites consécutives.
Merci Harry.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Bagassé Courant, votre compagnie pour cette édition du vendredi 27 mars 2015. Place maintenant au dossier du jour. Dans la région de Diffa, dans l'extrême sud-est du Niger, la circulation des motos est interdite jusqu'à nouvel ordre. C'est un moyen de transport privilégié là-bas, mais qui est aussi prisé par les militants de Boko Haram pour perpétrer des attaques. Le poivron, premier produit agricole de la région, est aussi interdit. Les pêcheurs du lac Tchad, eux aussi, ne savent plus où vendre leurs poissons. Les écoles qui étaient fermées viennent de rouvrir, mais beaucoup d'enseignants ont peur de revenir, sachant que le groupe islamiste interdit l'enseignement occidental dans la région. Idriss Fall, notre envoyé spécial, a abordé toutes ces questions d'ordre social avec le gouverneur de Diffa. Il s'appelle Yakubu Soumana Gao.
La situation au niveau des écoles, nous avions fait le tour au niveau de toutes les écoles, surtout de la ville. Les cours ont repris, les enseignantes et les enseignants sont sur place, les élèves aussi. Et nous avons demandé aux enseignants de voir comment se sacrifier pour rattraper le temps perdu au moins un mois. Les enseignants à l'unanimité ont accepté de faire le sacrifice pour organiser des cours de remédiation et de rattrapage le mercredi et le samedi. Nous pensons que d'ici la fin de l'année, les élèves seront à mesure d'affronter les examens session 2015.
Il y a des enseignants qui n'ont pas répondu présent.
Les enseignants qui n'ont pas répondu présent, le premier ministre chef du gouvernement, lors de son passage, a été très ferme. Il a demandé de remplacer systématiquement tous les enseignants qui ne sont pas revenus. La ministre de l'Éducation aussi a été très claire là-dessus. Et nous avons demandé à tous les inspecteurs de nous faire la situation des présences et des absences pour qu'on remplace rapidement tous ceux qui ne sont pas là.
Au plan sécuritaire, j'ai constaté qu'il n'y a pas une seule moto dans Diffa. Pourquoi ?
Oui, bon, ça c'était une mesure. Les activistes de Boko Haram utilisaient les motos pour faire des attaques ou encore venir placer des bombes. C'est pourquoi nous avions demandé au niveau de toute la région de déposer les motos jusqu'à nouvel ordre. C'est des mesures d'ordre sécuritaire.
Et ma dernière question porte sur le poivron et le poisson. Est-ce qu'il y a des mesures qui sont adoptées à ce niveau-là pour la vente et la commercialisation?
Là aussi, nous avons interdit formellement le mouvement du poisson et du poivron juste parce que ça ne profite qu'aux gens de Boko Haram. Ils prennent du poivron de force avec les populations. Ils ont des complices qui partent leur vendre ce poivron et ce poisson pour leur faire un ravitaillement ou encore leur envoyer de l'argent pour acheter les armes. Et c'est pourquoi nous avons interdit formellement la vente du poivron et du poisson.
Voilà, c'était le gouverneur de Diffa dans l'extrême sud-est du Niger, Yakubu Soumana Gao.
La Voix de l'Amérique au Niger sur Enfani FM à Niamey, Zinder et Agadez et sur Radio Dalol FM à Dongondouchi.
Voilà, le Mali a célébré ce jeudi 26 mars 2015 les 24 ans de sa révolution qui a consacré l'ouverture démocratique et le multipartisme, bien sûr la liberté d'expression. Si le chef de l'État malien respecte la tradition en déposant une gerbe de fleurs au monument des martyrs de 91, la question que l'on se pose est de savoir est-ce que les idéaux de mars 1991 tiennent toujours? Eh bien, élément de réponse dans ce reportage de Kassim Traoré.
Amadou Toumani Touré, l'un des acteurs clés de la révolution de mars 91, vit actuellement au Sénégal. Il a été le président de la transition démocratique au Mali en 1991.
Il n'y a pas de chemin pour contourner cette démocratie. Nous avons épousé, entamé un monopartisme qui n'a fait que nous créer des problèmes, qui nous a fait que tarir des talents, qui n'a fait que bâillonner des bonnes volontés. Donc nous nous sommes dit à un certain moment que si nous devons prendre le pouvoir et pour le peuple malien, nous devons accepter de tenter une autre expérience, l'expérience démocratique, l'expérience du multipartisme.
Aujourd'hui, les Maliens rendent hommage aux martyrs de mars 91 afin de ne pas oublier leur mort.
24e anniversaire de ce jour mémorable inscrit en lettres d'or et du sang de nos martyrs dans les annales de l'histoire héroïque de notre patrie, le Mali.
Nous devons continuer à nous souvenir, continuer à nous rappeler la mémoire de ces martyrs. Ce qui est important, je crois que nous ne devons pas oublier les idéaux du 26 mars.
Même le président de la République respecte la tradition en en déposant une gerbe de fleurs au monument des martyrs. Ibrahim Boubacar Keïta.
Ce n'est pas pour moi un rituel banal, c'est un rituel plein de signification. Beaucoup de nos êtres chers, et quand je le dis, très proches. Ce Mali dont ces jeunes, pour la plupart, ont rêvé, nous avons devoir et mission aujourd'hui de le réaliser.
Si les valeurs de mars 91 ont besoin d'être renforcées, la gouvernance a pris un sérieux coup. Si Kadiatou So, président de l'association ADEMA.
Le droit à la parole, à la liberté de s'organiser, la liberté de s'exprimer, la liberté d'intervenir dans la gestion des affaires de son pays, ça, ce sont des droits qui restent là. Et ce sont les acquis qui sont importants à préserver parce que rien n'est irréversible, mais il reste que le parcours n'a pas été facile. Beaucoup, beaucoup de choses qu'on aurait pu et qu'on aurait dû mieux faire. La gouvernance du pays est au plus mal et c'est vrai que ça ne date pas d'aujourd'hui, mais aujourd'hui, c'est une situation plus compliquée encore qu'auparavant.
Pour le secrétaire général de l'UNTEM, dont la centrale a joué un rôle clé dans la chute du régime Moussa Traoré, beaucoup reste à faire. Yacouba Katilé.
Il faut que l'État se mette dans cette logique. Il faut chercher les voies et moyens pour que les gens aient du travail, pour éviter qu'encore les gens n'aillent vers d'autres cieux et pour encore aller mourir ou encore aller apprendre autre chose tel que ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Et les terrorismes, les djihadistes et tout ce qui s'ensuit.
Les Maliens ont célébré les 24 ans de la chute du régime dictatorial tout en pensant à la situation qui prévaut dans les septentrions maliens. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Le nombre de demandeurs d'asile pour les pays développés atteint un niveau record à cause des guerres en Syrie et en Irak. Les précisions de Michel Joseph.
Le rapport 2014 du HCR estime qu'il y avait l'année dernière 866 000 nouveaux demandeurs d'asile pour les 44 pays les plus riches au monde, ce qui marque une augmentation de 45% par rapport à 2013. L'agence note qu'en 2014, ce chiffre était le plus élevé depuis la guerre en Bosnie-Herzégovine qui avait poussé des centaines de milliers de personnes sur le chemin de l'exil. Selon le HCR, 150 000 des demandes, soit un cinquième des demandes d'asile vers les pays industrialisés, provenaient de la Syrie. Les Syriens constituaient le groupe dominant des demandeurs d'asile l'année dernière, avec en deuxième position les Irakiens, puis les Afghans, les Serbes et les Érythréens. Selon les données 2014, l'Allemagne était le pays le plus convoité avec 173 000 demandes, dont un quart était des Syriens. Les États-Unis arrivaient en deuxième place avec plus de 120 000 demandes d'asile provenant principalement du Mexique et d'autres pays de l'Amérique centrale. La Turquie, la Suède et l'Italie étaient les autres pays ayant reçu le plus de demandes. Melissa Fleming, la porte-parole du HCR, dit que l'Italie a enregistré 63 700 nouvelles requêtes en 2014, un record. Ces demandes d'asile venaient pour la plupart du Mali, Nigeria et Gambie. La plupart des arrivées de bateaux de la Méditerranée accostent en Italie. Mais la plupart des gens qui débarquent ne restent pas en Italie. Ils voyagent, au contraire, vers d'autres pays européens, a dit Mme Fleming, précisant que les groupes les plus importants étaient les Syriens et les Érythréens, qui constituaient 50% des arrivées en bateau. La Russie n'est pas inclue dans ce rapport, mais le HCR souligne que ce pays a reçu 265 400 requêtes d'asile temporaire et 5 800 demandes de statut de réfugié de la part d'Ukrainiens en 2014. Melissa Fleming a déclaré à la VOA que d'autres pays doivent se montrer aussi généreux que l'Allemagne et la Suède, en particulier envers les demandeurs d'asile syriens, qui sont un fardeau énorme pour les pays voisins.
We have 3.9 million Syrian refugees.
Nous avons 3,9 millions de réfugiés syriens et beaucoup d'entre eux croyaient et étaient convaincus que cette guerre allait finir, que leur situation était temporaire, que leur tente était temporaire, que leurs enfants ne manqueraient que 1 ou 2 ans d'école et qu'ils allaient rentrer chez eux et reconstruire leur vie. Ce qu'on voit maintenant est une tendance vers le désespoir. Alors que la plupart des pays industrialisés ont noté un nombre accru de demandes d'asile l'année passée, quelques pays ont enregistré une diminution, notamment l'Australie. La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
Alors, Voilà, et pour terminer, venons-en maintenant à cette crise au Yémen. Pendant que la Maison-Blanche appuie les alliés arabes dans leur offensive contre les rebelles chiites des Houthis, des parlementaires américains, eux, s'alarment de la dernière crise au Moyen-Orient. Les détails avec Timothée Donangmaye.
Déjà un foyer ardent de tensions, le Moyen-Orient semble s'acheminer vers un conflit régional centré sur le Yémen. Cette situation globale inquiète Robert Menendez, le principal membre démocrate de la Commission sénatoriale des Affaires étrangères.
I'm not so sure there isn't an Arab country that wouldn't consider themselves.
Je ne suis pas sûr qu'il y ait un seul pays arabe qui ne se considère pas d'une façon ou d'une autre en guerre. Et le Yémen cause des soucis réels. C'est là que nous avons été capables de promouvoir nos intérêts quand il s'agit des attaques contre Al-Qaïda dans la péninsule arabique. Le sénateur Menendez blâme l'Iran, expliquant que l'appui de Téhéran aux rebelles chiites a créé l'instabilité, provoqué l'Arabie saoudite et les autres États du Golfe et les a forcés à agir. Hier, le porte-parole de la Maison-Blanche, Josh Earnest, a défendu à plusieurs reprises les affirmations faites l'année dernière par le président Barack Obama, qui alors qualifiait de succès le Yémen dans le cadre de la lutte contre l'extrémisme violent. Pour sa part, le Conseil national de sécurité a annoncé que le président a autorisé l'octroi d'un soutien dans les domaines de la logistique et du renseignement aux opérations militaires des alliés du Golfe. Pour nombre de parlementaires républicains, la crise au Yémen n'est qu'une autre preuve d'une politique américaine marquée au Moyen-Orient par l'hésitation et le manque de cohérence. Le président de la Chambre des représentants, John Boehner, a en fait déclaré que le monde a envie d'un leadership américain, mais que l'Amérique a un président anti-guerre qui n'a aucune grande stratégie pour faire face aux menaces. De son côté, le président de la Commission sénatoriale des Affaires étrangères, Bob Corker, s'est dit consterné par la position de l'administration à travers la région. En Irak, nous aidons l'Iran à faire de l'Irak une meilleure place pour l'Iran. Au Yémen, nous œuvrons avec les Saoudiens pour chasser un groupe appuyé par l'Iran, et puis vous regardez la Syrie et nous jouons avec les deux côtés. L'administration a du mal à décider qui est ami et qui est ennemi. Il y a beaucoup de consternation au sujet de la position de l'Amérique au Moyen-Orient et vous commencez à voir des changements d'alliance et cela crée des troubles là-bas, a déclaré le sénateur Bob Corker. Son collègue républicain Jeff Flake n'est pas sûr qu'une quelconque politique émanant de Washington aurait pu empêcher ce qui se passe actuellement au Yémen. Personne, je pense, n'aurait pu prédire ce qui s'est passé en un mois. Je ne suis pas un fan de la politique étrangère du président, mais cette crise au Yémen, on parle ici d'un quartier malfamé.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel. Aujourd'hui, Island Music, de la bonne musique des îles. Zouk, soca, merengue, reggaeton, reggae. Nous allons aussi continuer avec notre sujet hebdomadaire, la liberté d'expression. Envoyez-nous vos réactions par SMS au 225-58-92-85-40. Encore une fois, 225-58-92-85-40. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show. Appelez-nous aussi au 001-202-619-3140. RM Show, c'est chaque soir à 20h, temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Merci d'avoir suivi cette dernière édition matinale de la semaine. Au micro, c'était Bagassi Kouraï et Anne Albertson. Un grand merci à toute la rédaction de VOA Afrique. Ainsi va le monde aujourd'hui. Je vous souhaite de passer un excellent week-end.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique. VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous, avec vous ce matin, Bagassi Koura et Anne Alberson. Bienvenue à cette édition, cette dernière édition de la semaine. Nous sommes le vendredi 27 mars 2015 et au sommaire...
Deux vaccins expérimentaux contre le virus Ebola, objet d'un essai clinique de phase 2 au Liberia, paraissent être sans risque.
Le président kényan a présenté ses excuses à ses compatriotes pour les exactions commises par son gouvernement et ceux l'ayant précédé.
Le Mali a célébré hier les 24 ans de sa révolution qui a consacré l'ouverture démocratique.
Nous devons continuer à nous souvenir, continuer à nous rappeler la mémoire de ces martyrs. Ce qui est important, je crois que nous ne devons pas oublier les idéaux du 26 mars.
Voilà, à Difa, dans le sud-est du Niger, la guerre contre Boko Haram se ressent aussi dans les assiettes.
Nous avons interdit formellement le mouvement du poisson et du poivron juste parce que ça ne profite qu'aux gens de Boko Haram.
Voilà, c'est le gouverneur de Difa, Yakubu Soumana Gao.
Le président syrien Bachar al-Assad déclare qu'il est ouvert à un dialogue avec les États-Unis.
À suivre dans quelques instants, la Minute Éco suivie des sports. Mais d'abord, le journal.
Lutte contre Boko Haram, les armées du Tchad et du Niger poursuivent leur offensive contre le groupe islamiste dans le nord-est du Nigeria, fief des insurgés islamistes. Selon l'AFP, citant le ministre de la Défense nigérien, ces armées ont repris la ville de Gachagar à la frontière avec le Niger. Le Tchad et le Niger mènent depuis le 8 mars une offensive terrestre et aérienne contre Boko Haram dans le nord-est du Nigeria à partir du sud-est du Niger voisin. Ils ont notamment repris Damasak, localité située à une trentaine de kilomètres de la ville nigérienne de Difa.
La secrétaire d'État adjointe américaine chargée des affaires africaines est attendue aujourd'hui au Nigeria, à la veille de l'élection présidentielle couplée aux législatives. Les détails avec Eddie Isango.
Linda Thomas-Greenfield conduira la mission diplomatique officielle d'observation des élections générales nigérianes du 28 mars. Pour les départements d'État, ces déplacements de Mme Thomas-Greenfield révèlent l'importance que Washington attache à ces élections nigérianes. Les autorités américaines disent suivre de très près la crise dans ces géants de l'Afrique de l'Ouest. Washington voudrait, par cette visite, donner un exemple de l'appui qu'il apporte au processus électoral au Nigeria en vue d'un scrutin crédible et pacifique. Sur place, la secrétaire d'État adjointe chargée des affaires africaines aura des entretiens bilatéraux avec les 14 candidats qui briguent les postes du président de la République au Nigeria. La situation sécuritaire préoccupante causée par la présence du groupe islamique Boko Haram sera aussi au centre de ces entretiens. Déjà, le président Barack Obama a appelé lundi les Nigérians à voter samedi dans les calmes et à ne pas suivre ce qui appelle à la violence. À la veille de l'élection, les forces de sécurité nigérianes ont renforcé la surveillance. La campagne électorale s'est officiellement clôturée hier, alors que les deux principaux candidats, les présidents sortants Goodluck Jonathan et les candidats de l'opposition, Muhammadu Buhari, ont renouvelé leur engagement pour des élections pacifiques, libres, justes et crédibles.
Au Mali, des partisans de l'ex-président Amadou Toumani Touré, exilé au Sénégal depuis 2012, réclament son retour malgré la menace de poursuites judiciaires qui pèsent contre lui. Les partisans d'ATT, comme on l'appelle, ont organisé des rassemblements jeudi à Bamako et en province pour son retour. Selon l'AFP, le rassemblement à Bamako a réuni dans une salle d'un centre de conférence plus d'un millier de personnes, pour la plupart en t-shirt à l'effigie d'ATT. Général à la retraite élu du président du Mali en 2002, réélu en 2007, ATT avait été renversé le 22 mars 2012 par des militaires qui l'accusaient d'incurie dans la lutte contre les groupes armés à leur actif dans le nord du pays.
L'ONU a décidé d'augmenter le nombre de casques bleus opérant en République centrafricaine. Dans une résolution, le Conseil de sécurité autorise le déploiement de 750 soldats et 280 policiers supplémentaires dans le cadre de la MINUSCA, mesure notamment prise en prévision des prochaines élections.
Et pour ce qui est de la République démocratique du Congo, les Nations Unies ont décidé de réduire les effectifs militaires de 10%, soit 2000 hommes sur près de 20 000 soldats autorisés. Le mandat de la mission onusienne est toutefois renouvelé pour un an. Selon des diplomates du Conseil, Kinshasa réclamait le retrait immédiat de 6 000 casques bleus.
Le président kényan a présenté ses excuses à ses compatriotes pour les exactions commises par son gouvernement et ceux l'ayant précédé. Le moment est venu de refermer la page d'un passé douloureux, a déclaré Uhuru Kenyatta hier dans un discours au Parlement sur l'état de la nation. Les précisions de Timothée Dongmaye.
Parmi les actes de violence ayant émaillé l'histoire du Kenya, le président Kenyatta a cité les affrontements post-électoraux de 2007-2008, le massacre en 1984 des Kenyans d'ethnie somalie, des meurtres non élucidés et diverses injustices. Selon l'agence Associated Press, il a informé les législateurs avoir instruit le ministre des Finances de créer un fonds de 110 millions de dollars qui sera utilisé dans des initiatives de justice restauratrice sur les trois prochaines années. En remettant son rapport au président Uhuru Kenyatta en mai 2013, la commission Vérité et Réconciliation du pays lui avait accordé 6 mois pour présenter ses excuses aux Kenyans. Ce document avait épinglé, entre autres, le chef de l'État kényan lui-même et son vice-président pour les violences post-électorales de 2007-2008. Le document n'a pas épargné d'anciens dirigeants kényans, citant Jomo Kenyatta, père du président actuel, Daniel Arap Moi et Mwai Kibaki, pour diverses violations des droits humains.
Deux vaccins expérimentaux contre le virus Ebola, objet d'un essai clinique de phase 2 au Libéria, avec plusieurs centaines de personnes, paraissent être sans risque. C'est ce qu'a indiqué jeudi l'Institut américain des allergies et des maladies infectieuses. Ces résultats confirment deux essais cliniques avec 20 personnes chacun, menés précédemment aux États-Unis. L'essai se poursuit en augmentant le nombre des participants, qui devrait atteindre environ 1500, et avec une plus grande proportion de femmes, d'environ 16%, précise un communiqué. Cette phase vise à déterminer l'efficacité des vaccins.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président syrien Bachar al-Assad a déclaré qu'il était ouvert à un dialogue avec les États-Unis. Selon l'AFP, il a fait cette annonce dans une interview accordée à la chaîne de télévision américaine CBS et dont les extraits ont été diffusés jeudi. Assad a ajouté qu'un tel dialogue devrait être fondé sur le respect mutuel selon ces extraits de l'interview accordée au journaliste Charlie Rose et dont l'intégralité doit être diffusée dimanche dans l'émission 60 Minutes de CBS. Le 15 mars dernier, dans une interview à CBS, le secrétaire d'État John Kerry a paru dire que Washington devrait en fin de compte parler avec le président Assad si l'on voulait mettre fin au conflit en Syrie.
Les forces irakiennes sont en pleine offensive pour reprendre la ville de Tikrit. Auparavant, les avions de guerre de la coalition sous commandement américain ont lancé des frappes aériennes sur des objectifs du groupe État islamique dans la ville. Jean-Roger Bion.
Les militaires irakiens annoncent que les combats se sont intensifiés et que les troupes irakiennes et les forces spéciales ont fait mouvement vers le centre de Tikrit, la ville natale de Saddam Hussein. Les avions de guerre irakiens ont également lancé des frappes aériennes sur les positions des militants de l'État islamique dans Tikrit. Les troupes irakiennes et les milices chiites qui luttent contre les militants avaient hésité à demander un appui aérien extérieur, mais après quelques prises rapides en dehors de Tikrit, les efforts pour reprendre la ville s'étaient enlisés. Les frappes aériennes ont commencé après que le premier ministre irakien Adel Al-Abadi eut demandé il y a un mois un soutien pour reprendre cette ville stratégique. Le commandant de la coalition, le général américain James Terry, a déclaré que les frappes aériennes vont permettre aux forces irakiennes de bouter dehors les djihadistes. Ces frappes visent à cibler les forteresses des îles avec précision et ainsi sauver des vies d'Irakiens innocents, tout en minimisant les dommages collatéraux aux infrastructures, a-t-il notamment ajouté. Tikrit est la capitale de la province de Salahoudine, une zone située entre la capitale irakienne, Bagdad et la deuxième ville d'Irak, Mossoul, qui est sous contrôle des combattants de l'État islamique depuis le mois de juin.
Voilà, le président iranien Hassan Rouhani a lancé une offensive diplomatique exceptionnelle en appelant et en envoyant des lettres aux dirigeants de grandes puissances, dont le président Barack Obama, pour pousser à un accord sur le nucléaire. C'est là alors même que des discussions âpres ont repris à Lausanne en Suisse en vue d'arracher un compromis avant la fin du mois. Des détails avec Jacques Aristide.
Des coups de fil personnels à nombre de leaders mondiaux, le chef de l'État iranien a appelé un par un les présidents russes Vladimir Poutine, chinois Xi Jinping, français François Hollande et le premier ministre britannique David Cameron. Objectif, mettre tout son poids dans la balance à J-4 de la date butoir du 31 mars, fixée par les négociateurs pour aboutir au minimum à un accord cadre sur le nucléaire iranien. D'après l'AFP, Hassan Rouhani a également envoyé des lettres aux dirigeants de tous les pays du groupe P5+1, États-Unis, Russie, Chine, France, Royaume-Uni et Allemagne. La Maison-Blanche a confirmé qu'une lettre avait été remise à la délégation américaine à Lausanne. Messieurs Rouhani et Barack Obama se sont parlé au téléphone une seule fois fin 2013, en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies, alors que les deux pays n'ont toujours pas rétabli leurs relations diplomatiques, rompues depuis 35 ans. Téhéran cherche l'annulation totale des sanctions internationales qui asphyxient l'économie iranienne.
Des avions de la coalition menée par l'Arabie saoudite ont lancé de nouvelles frappes hier soir au Yémen contre les rebelles chiites soutenus par l'Iran. L'information a été rapportée par l'AFP qui a évoqué de fortes explosions ayant secoué la capitale Sanaa.
Un soldat de la garde nationale de l'armée américaine et son cousin ont été inculpés pour avoir planifié un plan de combat pour le groupe État islamique et de vouloir tuer des dizaines de personnes dans un camp militaire américain. Le soldat Hassan Edmonds, âgé de 22 ans, a été placé en détention à l'aéroport Midway de Chicago mercredi soir. Quant à Jonas Edmonds, âgé de 29 ans, il a été arrêté à son domicile. Les deux hommes sont des citoyens américains.
Tout savoir sur l'économie en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco et ce matin, c'est avec Eddy Issango.
Pour la deuxième fois en quatre mois, la Banque nationale du Canada effectue un investissement de plusieurs millions de dollars pour une prise de participation au capital d'un groupe financier africain. Cette fois, il s'agit de la société NCA, un groupe de services financiers et d'assurance établi en Abidjan, en Côte d'Ivoire. Les activités de la NCA s'étendent dans 12 pays d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale. En RDC, l'exposition de produits Made in Congo a refermé ses portes hier jeudi à Lubumbashi. Une résolution a été prise de renforcer les femmes entrepreneurs locales, les présidents des petites et moyennes entreprises du Katanga définissent les défis à relever par les femmes. François Moutuilé.
Les femmes ont beaucoup de défis à relever afin que l'intégration régionale leur soit favorable. L'accès au marché intérieur, la sous-traitance, l'accès au crédit, la formation des entrepreneurs afin que leur niveau managérial soit élevé aux standards requis.
François Moutuilé au micro de nos confrères des Radio Capi. L'insécurité due à Boko Haram et à la crise centrafricaine, combinée à la chute des cours des matières premières, plombe les économies de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC. Les dernières prévisions de croissance de 2015, établies mercredi entre 4,2 et 4,3%, confirment une tendance à la baisse persistante observée depuis fin 2014. Les projections initiales de la CEMAC tablaient sur une accélération époustouflante de cette croissance de 5,3% à 6,7% au cours du premier semestre.
Vous écoutez VOA Afrique, c'est l'heure de sport. Bonjour Harry Francisca.
Bonjour Bagassi.
En football, au suite des matchs amicaux hier soir.
La Côte d'Ivoire a battu l'Angola 2-0 en match amical jeudi à Abidjan. But, Côte d'Ivoire, Ousmane Vieira, 24e minute. Salomon Kalou, 90e minute. Ensuite, le match Qatar-Algérie, 1-0 en faveur des Qataris. La sélection africaine numéro 1 devra se réveiller lundi face à Oman pour éviter que cette tournée printanière dans le golfe Persique ne se transforme en fiasco. Et puis, l'Égypte a battu la Guinée équatoriale 2-0 lors d'un match amical jeudi au Caire. But de Bassem Morsi à la 85e minute et Mahmoud Hassan à la 90e.
Le match de la soirée hier en Europe, c'était France-Brésil.
La rencontre s'est soldée par cette humiliation des Bleus à domicile, 3-1.
Et autre résultat, Henri.
La Colombie a écrasé Bahreïn 6-0 à Rifa, grâce à notamment un doublé de Radamel Falcao. L'Iran s'est imposé face au Chili 2-0. Et samedi, Togo, Île Maurice. Convoqué pour ce match amical, Emmanuel Adebayor, Kossi Agassa et Flood Haïté n'ont pas rejoint la sélection togolaise, qui devrait être coachée pour l'occasion par le Belge Tom Saint-Fier.
Et pour terminer, la NBA, le championnat de basketball nord-américain.
Oui, il n'y avait qu'un match à l'affiche hier soir, celui opposant les Pacers d'Indiana aux Bucks de Milwaukee. Ces derniers l'ont emporté par 111 à 107, grâce notamment aux 37 points du Turc Ersan Ilyasova. Enfin, ajoutant que c'est la deuxième victoire d'affilée des Pacers après 6 défaites consécutives.
Merci Harry.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Bagassé Courant, votre compagnie pour cette édition du vendredi 27 mars 2015. Place maintenant au dossier du jour. Dans la région de Diffa, dans l'extrême sud-est du Niger, la circulation des motos est interdite jusqu'à nouvel ordre. C'est un moyen de transport privilégié là-bas, mais qui est aussi prisé par les militants de Boko Haram pour perpétrer des attaques. Le poivron, premier produit agricole de la région, est aussi interdit. Les pêcheurs du lac Tchad, eux aussi, ne savent plus où vendre leurs poissons. Les écoles qui étaient fermées viennent de rouvrir, mais beaucoup d'enseignants ont peur de revenir, sachant que le groupe islamiste interdit l'enseignement occidental dans la région. Idriss Fall, notre envoyé spécial, a abordé toutes ces questions d'ordre social avec le gouverneur de Diffa. Il s'appelle Yakubu Soumana Gao.
La situation au niveau des écoles, nous avions fait le tour au niveau de toutes les écoles, surtout de la ville. Les cours ont repris, les enseignantes et les enseignants sont sur place, les élèves aussi. Et nous avons demandé aux enseignants de voir comment se sacrifier pour rattraper le temps perdu au moins un mois. Les enseignants à l'unanimité ont accepté de faire le sacrifice pour organiser des cours de remédiation et de rattrapage le mercredi et le samedi. Nous pensons que d'ici la fin de l'année, les élèves seront à mesure d'affronter les examens session 2015.
Il y a des enseignants qui n'ont pas répondu présent.
Les enseignants qui n'ont pas répondu présent, le premier ministre chef du gouvernement, lors de son passage, a été très ferme. Il a demandé de remplacer systématiquement tous les enseignants qui ne sont pas revenus. La ministre de l'Éducation aussi a été très claire là-dessus. Et nous avons demandé à tous les inspecteurs de nous faire la situation des présences et des absences pour qu'on remplace rapidement tous ceux qui ne sont pas là.
Au plan sécuritaire, j'ai constaté qu'il n'y a pas une seule moto dans Diffa. Pourquoi?
Oui, bon, ça c'était une mesure. Les activistes de Boko Haram utilisaient les motos pour faire des attaques ou encore venir placer des bombes. C'est pourquoi nous avions demandé au niveau de toute la région de déposer les motos jusqu'à nouvel ordre. C'est des mesures d'ordre sécuritaire.
Et ma dernière question porte sur le poivron et le poisson. Est-ce qu'il y a des mesures qui sont adoptées à ce niveau-là pour la vente et la commercialisation?
Là aussi, nous avons interdit formellement le mouvement du poisson et du poivron juste parce que ça ne profite qu'aux gens de Boko Haram. Ils prennent du poivron de force avec les populations. Ils ont des complices qui partent leur vendre ce poivron et ce poisson pour leur faire un ravitaillement ou encore leur envoyer de l'argent pour acheter les armes. Et c'est pourquoi nous avons interdit formellement la vente du poivron et du poisson.
Voilà, c'était le gouverneur de Diffa dans l'extrême sud-est du Niger, Yakubu Soumana Gao.
La Voix de l'Amérique au Niger sur Enfani FM à Niamey, Zinder et Agadez et sur Radio Dalol FM à Dongondouchi.
Voilà, le Mali a célébré ce jeudi 26 mars 2015 les 24 ans de sa révolution qui a consacré l'ouverture démocratique et le multipartisme, bien sûr la liberté d'expression. Si le chef de l'État malien respecte la tradition en déposant une gerbe de fleurs au monument des martyrs de 91, la question que l'on se pose est de savoir est-ce que les idéaux de mars 1991 tiennent toujours? Eh bien, élément de réponse dans ce reportage de Kassim Traoré.
Amadou Toumani Touré, l'un des acteurs clés de la révolution de mars 91, vit actuellement au Sénégal. Il a été le président de la transition démocratique au Mali en 1991.
Il n'y a pas de chemin pour contourner cette démocratie. Nous avons épousé, entamé un monopartisme qui n'a fait que nous créer des problèmes, qui nous a fait que tarir des talents, qui n'a fait que baïonner des bonnes volontés. Donc nous sommes dit à un certain moment que si nous devons prendre le pouvoir et pour le peuple malien, Nous devons accepter de tenter une autre expérience, l'expérience démocratique, l'expérience du multipartisme.
Aujourd'hui, les Maliens rendent hommage aux martyrs de mars 91 afin de ne pas oublier leur mort.
24e anniversaire de ce jour mémorable inscrit en lettres d'or et du sang de nos martyrs dans les annales de l'histoire héroïque de notre patrie, le Mali.
Nous devons continuer à nous souvenir, continuer à nous rappeler la mémoire de ces martyrs. Ce qui est important, je crois que nous ne devons pas oublier les idéaux du 26 mars.
Même le président de la République respecte la tradition en déposant une gerbe de fleurs au monument des martyrs. Ibrahim Boubacar Keïta.
Ce n'est pas pour moi un rituel banal, c'est un rituel plein de signification. Beaucoup de nos êtres chers, et quand je le dis, très proches. Ce Mali dont ces jeunes, pour la plupart, ont rêvé, nous avons devoir et mission aujourd'hui de le réaliser.
Si les valeurs de mars 91 ont besoin d'être renforcées, la gouvernance a pris un sérieux coup. Si Kadiatousso, président de l'association ADEMA.
Le droit à la parole, à la liberté de s'organiser, la liberté de s'exprimer, la liberté d'intervenir dans la gestion des affaires de son pays, ça, ce sont des droits qui restent là. Et ce sont les acquis qui sont importants à préserver parce que rien n'est irréversible. Mais il reste que le parcours n'a pas été facile. Beaucoup, beaucoup de choses qu'on aurait pu et qu'on aurait dû mieux faire. La gouvernance du pays est au plus mal. Et c'est vrai que ça ne date pas d'aujourd'hui, mais aujourd'hui, c'est une situation plus compliquée encore qu'auparavant.
Pour le secrétaire général de l'UNDEM, dont la centrale a joué un rôle clé dans la chute du régime Moussa Traoré, beaucoup reste à faire. Yacouba Katilé.
Il faut que l'État se mette dans cette logique. Il faut chercher les voies et moyens pour que les gens aient du travail. Pour éviter qu'encore les gens n'aillent vers d'autres cieux et pour encore aller mourir ou encore aller apprendre autre chose tel que ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Et les terrorismes, les djihadistes et tout ce qui s'ensuit.
Les Maliens ont célébré les 24 ans de la chute du régime dictatorial tout en pensant à la situation qui prévaut dans les septentrions maliens. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Le nombre de demandeurs d'asile pour les pays développés atteint un niveau record à cause des guerres en Syrie et en Irak. Les précisions de Michel Joseph.
Le rapport 2014 du HCR estime qu'il y avait l'année dernière 866 000 nouveaux demandeurs d'asile pour les 44 pays les plus riches au monde, ce qui marque une augmentation de 45% par rapport à 2013. L'agence note qu'en 2014, ce chiffre était le plus élevé depuis la guerre en Bosnie-Herzégovine qui avait poussé des centaines de milliers de personnes sur le chemin de l'exil. Selon le HCR, 150 000 des demandes, soit un cinquième des demandes d'asile vers les pays industrialisés, provenaient de la Syrie. Les Syriens constituaient le groupe dominant des demandeurs d'asile l'année dernière, avec en deuxième position les Irakiens, puis les Afghans, les Serbes et les Érythréens. Selon les données 2014, l'Allemagne était le pays le plus convoité avec 173 000 demandes, dont un quart étaient des Syriens. Les États-Unis arrivaient en deuxième place avec plus de 120 000 demandes d'asile provenant principalement du Mexique et d'autres pays de l'Amérique centrale. La Turquie, la Suède et l'Italie étaient les autres pays ayant reçu le plus de demandes. Melissa Fleming, la porte-parole du HCR, dit que l'Italie a enregistré 63 700 nouvelles requêtes en 2014, un record. Ces demandes d'asile venaient pour la plupart du Mali, Nigeria et Gambie. La plupart des arrivées de bateaux de la Méditerranée accostent en Italie. Mais la plupart des gens qui débarquent ne restent pas en Italie. Ils voyagent au contraire vers d'autres pays européens, a dit Mme Fleming, précisant que les groupes les plus importants étaient les Syriens et les Érythréens, qui constituaient 50% des arrivées en bateau. La Russie n'est pas inclue dans ce rapport, mais le HCR souligne que ce pays a reçu 265 400 requêtes d'asile temporaire et 5 800 demandes de statut de réfugiés de la part d'Ukrainiens en 2014. Melissa Fleming a déclaré à la VOA que d'autres pays doivent se montrer aussi généreux que l'Allemagne et la Suède, en particulier envers les demandeurs d'asile syriens, qui sont un fardeau énorme pour les pays voisins.
We have 3.9 million Syrian refugees.
Nous avons 3,9 millions de réfugiés syriens et beaucoup d'entre eux croyaient et étaient convaincus que cette guerre allait finir, que leur situation était temporaire, que leur tente était temporaire, que leurs enfants ne manqueraient que 1 ou 2 ans d'école et qu'ils allaient rentrer chez eux et reconstruire leur vie. Ce qu'on voit maintenant est une tendance vers le désespoir. Alors que la plupart des pays industrialisés ont noté un nombre accru de demandes d'asile l'année passée, quelques pays ont enregistré une diminution, notamment l'Australie. La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
Allez, pour terminer, venons-en maintenant à cette crise au Yémen. Pendant que la Maison-Blanche appuie les alliés arabes dans leur offensive contre les rebelles chiites des Houthis, des parlementaires américains, eux, s'alarment de la dernière crise au Moyen-Orient. Les détails avec Timothée Donangmaye.
Déjà un foyer ardent de tensions, le Moyen-Orient semble s'acheminer vers un conflit régional centré sur le Yémen. Cette situation globale inquiète Robert Menendez, le principal membre démocrate de la Commission sénatoriale des affaires étrangères. Je ne suis pas sûr qu'il y ait un seul pays arabe qui ne se considère pas d'une façon ou d'une autre en guerre. Et le Yémen cause des soucis réels. C'est là que nous avons été capables de promouvoir nos intérêts quand il s'agit des attaques contre Al-Qaïda dans la péninsule arabique. Le sénateur Menendez blâme l'Iran, expliquant que l'appui de Téhéran aux rebelles chiites a créé l'instabilité, provoqué l'Arabie saoudite et les autres États du Golfe et les a forcés à agir. Hier, le porte-parole de la Maison-Blanche, Josh Earnest, a défendu à plusieurs reprises les affirmations faites l'année dernière par le président Barack Obama, qui alors qualifiait de succès le Yémen dans le cadre de la lutte contre l'extrémisme violent. Pour sa part, le Conseil national de sécurité a annoncé que le président a autorisé l'octroi d'un soutien dans les domaines de la logistique et du renseignement aux opérations militaires des alliés du Golfe. Pour nombre de parlementaires républicains, la crise au Yémen n'est qu'une autre preuve d'une politique américaine marquée au Moyen-Orient par l'hésitation et le manque de cohérence. Le président de la Chambre des représentants, John Boehner, a en fait déclaré que le monde a envie d'un leadership américain, mais que l'Amérique a un président anti-guerre qui n'a aucune grande stratégie pour faire face aux menaces. De son côté, le président de la Commission sénatoriale des affaires étrangères, Bob Corker, s'est dit consterné par la position de l'administration à travers la région. En Irak, nous aidons l'Iran à faire de l'Irak une meilleure place pour l'Iran. Au Yémen, nous œuvrons avec les Saoudiens pour chasser un groupe appuyé par l'Iran, et puis vous regardez la Syrie et nous jouons avec les deux côtés. L'administration a du mal à décider qui est ami et qui est ennemi. Il y a beaucoup de consternation au sujet de la position de l'Amérique au Moyen-Orient et vous commencez à voir des changements d'alliance et cela crée des troubles là-bas, a déclaré le sénateur Bob Corker. Son collègue républicain Jeff Flake n'est pas sûr qu'une quelconque politique émanant de Washington aurait pu empêcher ce qui se passe actuellement au Yémen. Personne, je pense, n'aurait pu prédire ce qui s'est passé en un mois. Je ne suis pas un fan de la politique étrangère du président, mais cette crise au Yémen, on parle ici d'un quartier malfamé.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel. Aujourd'hui, Island Music, de la bonne musique des îles. Zouk, soca, merengue, reggaeton, reggae. Nous allons aussi continuer avec notre sujet hebdomadaire, la liberté d'expression. Envoyez-nous vos réactions par SMS au 225-58-92-85-40. Encore une fois, 225-58-92-85-40. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show. Appelez-nous aussi au 001-202-619-3140. RM Show, c'est chaque soir à 20h, temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Merci d'avoir suivi cette dernière édition matinale de la semaine. Au micro, c'était Bagassi Kouraï, Anne Albertson. Un grand merci à toute la rédaction de VOA Afrique. Ainsi va le monde aujourd'hui. Je vous souhaite de passer un excellent week-end.